Je vous invite à ouvrir avec moi dans 1 Pierre 4, 7. La fin de toute chose est proche, soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. 2 Pierre 1, 12. Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. J'estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par mes rappels, car je sais, comme le Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, que mon départ de cette tente est imminent. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous en souvenir. J'ai choisi ces deux paroles d'introduction alors que nous allons terminer ce matin notre quatrième et dernier message sur la première lettre de Pierre. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'être là dans les autres cultes, nous aurons les CD à la sortie. Également, je me suis attelé à écrire les messages et de vous les proposer à la sortie tout à l'heure. L'apôtre Pierre avait reçu, souvenez-vous, cette parole de Jésus et il avait compris qu'il allait mourir martyr un jour, qu'il allait être lié et emmené quelque part où il ne voulait pas. Et l'Écriture nous dit dans Jean 21 qu'il terminera sa vie d'une manière abrupte. Il ne va pas terminer sa vie malade dans un lit pour mourir tranquillement. Et comme il le sait, il va avoir ça à l'esprit en sachant que la ligne de sa vie court en parallèle avec la ligne de l'éternité. Et qu'il peut la traverser à tout moment comme un pont, et toc, on est de l'autre côté d'un moment à un autre. Frères et sœurs, savez-vous que pour nous c'est pareil? La ligne de notre vie court en parallèle avec la ligne de l'éternité. Et nous pouvons la traverser n'importe quand. Et l'apôtre Pierre va dire, mais je vais, dans le temps qui me reste, je vais tout faire pour ramener, parler par ma vie, par mon exemple, par mon témoignage, par le ministère, par tous les moyens que Dieu utilisera pour m'utiliser. Je vais rappeler ces choses, je vais marquer ces choses, je vais souligner ces choses, je vais tenir vos cœurs en éveil par des avertissements. On sent que l'apôtre Pierre veut laisser une trace. Parce qu'il sait qu'à un moment donné, il ne sait pas quand, mais à un moment donné, il traversera la ligne de la vie pour arriver dans l'éternité. Et il veut vraiment avertir et c'est comme s'il nous regardait ce matin dans le blanc des yeux. Et qu'il nous regardait personnellement. Il dirait, je suis simplement un disciple de Jésus. Mais je sais qu'un jour, ma vie se terminera et je ne pourrai plus travailler à ce moment-là. Mais ce que je peux encore faire, je vais m'y atteler à fond pour vous avertir, pour vous enseigner, pour vous encourager. Car le Seigneur lui avait dit, souvenez-vous, lorsque tu seras revenu, lorsque tu seras converti, fortifie tes frères, encourage tes frères. Et il va le faire, il va le faire. Rappelez-vous de ce que nous avons dit, il est actuellement à Rome, dans un lieu probablement secret. Il s'adresse, alors qu'il est caché avec les autres chrétiens qui souffrent dans cette capitale de la mainmise et des lois des empereurs qui, les uns ou les autres, persécutent l'Église d'une manière plus ou moins forte. Et il s'adresse donc aux chrétiens partout dispersés dans tout l'Empire romain. Il leur parle, il est avec eux. Ces chrétiens, juifs et non-juifs, dans la dispersion, ont besoin de réconfort, ont besoin de courage, ont besoin d'exhortation, ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls. Et il y a tant et de choses à dire. Nous n'avons pas eu l'occasion de toucher tous les points, bien sûr, de cette épître. Il y en a d'autres qui mériteraient d'être détaillés par un message qu'il faudrait vraiment marquer encore au travers de ces chapitres qu'il nous laisse. Et il nous dit « gardez le cap ». C'est le thème de ce quatrième message. Gardez le cap, garde la direction, ne te laisse pas arrêter par quoi que ce soit, garde le cap, car à un moment donné, ce sera terminé, ce sera trop tard. Et le Seigneur, à ce moment-là, t'accueillera et la couronne de vie t'attendra. tu la recevras de la main du Seigneur. Garde le cap, garde le cap. Les temps sont difficiles, les persécutions font rage. Les chrétiens sont sous pression, les chrétiens sont isolés. Les chrétiens sentent cette souffrance et ils la vivent, certains plus que d'autres. Et l'apôtre Pierre dit, gardez le cap, gardez le cap. Les conditions ne sont pas idéales, mais gardez le cap quand même. Les conditions ne sont même pas idéales pour écrire une lettre, mais Pierre n'a pas attendu d'avoir les conditions idéales pour écrire. Il a simplement écrit et inscrit les choses sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et en simplement 5 chapitres dans 1 Pierre et 3 chapitres dans 2 Pierre, eh bien, nous avons aujourd'hui, après 2000 ans, un héritage pour l'humanité tout entière. Parce que cet homme a obéi, il a laissé une trace. Alléluia. Nous avons vu dans le premier message que il ne faut pas perdre de vue notre héritage glorieux. Deuxième message, nous avons parlé que nous ne devons pas être surpris par la souffrance. Car la souffrance agit pour un peu de temps, puisqu'il le faut, dans un but. Et vous écouterez les messages, pourquoi, quel est le but. Troisième message était sur la puissance de l'amour fraternel. L'apôtre Pierre va rappeler, aimez-vous d'un amour fraternel sincère. Aimez-vous d'un amour non sélectif, mais aimez tout un chacun, soyez remplis d'amour fraternel, dira-t-il. Et nous avons souligné deux aspects, que l'amour couvre une multitude de fautes et que nous sommes appelés à bénir afin d'hériter la bénédiction. Nous lisons maintenant dans le 5e chapitre, verset 1. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous ont été confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève en temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et le Dieu de toute grâce en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable, à lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous méditerons quelques instants sur ce merveilleux texte. L'apôtre Pierre va tout d'abord dire qu'il est un ancien. Pourtant, il était apôtre. Mais vous souvenez que tous ses désirs d'être quelqu'un, souvenez-vous de la discussion qu'ils avaient, le trio de tête, entre autres, Pierre, Jacques et Jean, avec les autres. Qui est le plus grand parmi nous? Mais lorsqu'il a vécu le reniement, lui qui se croyait tellement bon, tellement fort, qu'il n'allait jamais renier le Seigneur, et à quelle vitesse il a été pris dans le piège du reniement, et lorsqu'il a eu cette chute magistrale, eh bien, cette humiliation était tellement nécessaire pour qu'il descendre de son piédestal, de sa fierté, de sa propre force personnelle. Ça a été un des grands problèmes de Pierre, ça, de compter sur sa force personnelle. Et pour lui, les titres n'ont plus beaucoup d'importance. On pourrait dire beaucoup de choses à ce sujet. Que vaut pour vous un titre? Que vaut pour vous le titre qu'on vous donne? Trois mamans parlaient ensemble de ce qu'était devenu leur fils. Et une maman tellement fière disait, « Mais mon fils, vous savez, on l'appelle maître. » Alors, la maman à côté dit, « Mais moi, ça c'est bien, mais alors écoutez, le mien, on l'appelle Monseigneur. » Il était donc devenu évêque, comme vous pouvez l'imaginer. Puis la troisième ne savait pas trop que répondre, et puis elle dit, « Le mien, quand les gens passent à côté, ils disent, « Mon Dieu !» Alors il avait un titre également à porter, ce jeune homme qui était peut-être pas très glorieux, mais les titres ne sont pas du tout ce que Dieu recherche. Ils sont nécessaires pour s'y retrouver dans la vie, bien sûr. Mais Pierre a compris que les titres ne sont pas du tout la fonction Il ne pousse pas en avant son apostolat, c'est quand même le grand apôtre Pierre, mais il se dit simple ancien comme les autres. Simplement, il dit je suis simplement dans mon appel. Jésus m'a dit un jour, paie mes agneaux, paie mes brebis. Occupe-toi des petits agneaux, occupe-toi des brebis, occupe-toi de mon troupeau le mieux que tu peux. Sois simplement un ancien comme les autres. Sois un homme de maturité, de sagesse, une colonne dans l'église, quelqu'un sur qui on peut compter, une référence. Sois un ancien. Il lui avait dit également, tu seras pêcheur d'hommes. Occupe-toi de la vocation que tu as reçue et ne te compare à personne, mon frère. Occupe-toi de ce que tu as reçu de la part du Seigneur et entre dans ton appel. C'est là que tu seras heureux et que tu porteras des fruits. C'est là que tu porteras des fruits. Ce n'est pas les titres qui vont changer quelque chose. Rappelons juste que la charge d'ancien, c'est quelque chose, l'apôtre Paul va dire que ça doit résonner à un moment donné en nous. Il est même dit qu'on peut aspirer à cette charge, on peut avoir envie de cette charge, tout en sachant, d'après Tite et Timothée, toute la liste des exigences nécessaires pour être à la hauteur de ce que Dieu veut pour un ancien, de ce que l'Église aussi attend pour être un ancien. C'est un ministère important qu'on trouve très souvent dans l'Ancien Testament où les anciens avaient une fonction de dirigeant en Israël. Et le texte que nous avons vu, il est question du mot « ancien », il est question de « faites paître le troupeau » et puis il est question aussi du troupeau que Dieu vous a confié. Trois mots qui, dans l'original grec, nous permettent de donner les trois définitions du pasteur en réalité, ou de l'ancien. L'ancien pasteur, c'est une fonction d'être berger d'un troupeau. Si vous êtes ancien, il y a forcément un troupeau quelque part autour de vous, même si c'est que deux ou trois brebis, mais il y a un troupeau. D'autres, ils ont un troupeau de centaines ou de milliers, peu importe, mais un ancien qui n'a aucun troupeau, rien autour de lui, ce n'est pas un ancien. Il faut qu'un ancien ait un troupeau, quelque part. Des gens qui sont autour de lui. Alors, il nous est dit donc ces trois mots qui, je vous rappelle juste, c'est important et c'est précieux d'en parler, on n'en parle pas si souvent. Le premier mot, c'est, on peut l'entendre, c'est presbytéros, c'est le presbytre, qui finalement, où l'accent est mis sur la maturité et sur l'expérience spirituelle. C'est un homme d'expérience et de maturité. Deuxième mot, poimen, qui veut dire berger, c'est une fonction pastorale. C'est une fonction prendre soin du troupeau, prendre soin, nourrir, guider, protéger, etc. Le troupeau est en avant. Et troisième mot, c'est intéressant aussi, épiscopos, épiscope, évêque, c'est ça aussi. Ça veut dire celui qui veille sur, celui qui a le regard sur, un regard bienveillant, pas un regard, bien sûr, de haut en bas, comme ça, de dureté, de critique, mais quelqu'un qui veille avec amour sur toute chose. Ces fonctions, ce ministère, sont indispensables dans l'Église. Amen. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Tout troupeau doit avoir ces colonnes, doit avoir ces personnes qui veillent, qui prennent soin et qui sont des gens d'expérience et de maturité. Pour moi, personnellement, je suis convaincu que la fonction d'ancien est une fonction pour les hommes. Ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas accès au ministère. Mais cette fonction-là est pour les hommes, clairement. Vous pouvez lire les textes de 1 Timothée et de Tite. Ça ne diminue en rien la place de la femme dans l'Église, mais chacun a son rôle précis, dans l'ordre clair de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il ne faut pas prendre juste un verset et puis essayer de le... Non, l'ensemble nous montre un certain nombre de choses, et la fonction d'ancien est une fonction confiée à l'homme, mais attention, à l'homme qui se comporte vraiment selon l'Esprit de Christ. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre va rajouter, mais si vous êtes ancien, eh bien, vous devez aussi faire ces choses dans la bonne attitude, dans le bon comportement dont il va dire ici quelques détails. On n'a pas le temps de voir tout cela comme une étude détaillée ce matin, mais juste dire que ce sont des fonctions, ce sont des ministères doté d'une grande responsabilité. Vous faites bien de prier pour l'équipe pastorale ou ceux qui sont en formation d'anciens, ceux qui sont en émergence, même des jeunes qui ont déjà quelque part un appel sur leur vie. Il faut prier pour ça. Il y a une grande et vaste tâche qui les attend. Où le ministère est tellement varié, tellement prenant, tellement exigeant que nous avons besoin, frères et sœurs, en tant que pasteurs, de la prière fervente de toute l'Église. Et que chacun puisse trouver sa place. Et si vous aspirez à une place de ce genre, vous faites bien, dit la parole de Dieu, mais il y aura une grande attente de la part des gens, mais aussi de la part de Dieu, et nous aurons des comptes à rendre. Et l'apôtre Pierre va dire, si tu fais les choses comme je te l'encourage à faire, par exemple, de faire les choses volontairement, non pas pour utiliser, pour avoir quelque chose en fin de compte, en échange, pour un gain sordide. Ce n'est pas seulement avoir de l'argent, mais c'est avoir la reconnaissance des gens, avoir les applaudissements des gens, avoir les compliments des gens, etc. Des fois, on peut être tenté de virer là-dedans afin de recevoir beaucoup, parce qu'on pense que c'est comme ça que... on est reconnu enfin. Il y a des personnes qui sont en quête de reconnaissance et qui cherchent ça justement. Et l'apôtre Pierre, lui qui était un peu dans cette tendance avant, il voulait être vu, reconnu et il prenait la parole et il voulait être sous les projecteurs. Il a dû descendre tellement bas pour que tout ça s'efface. Il va dire, eh bien, que vous puissiez non pas pour un gain sordide mais de bon cœur, simplement par esprit de service. Mes frères et sœurs, si vous êtes un ancien ou à quelconque ministère dans l'Église, sans être appelé, vous ne porterez pas de fruits véritables. Et vous aurez toujours des problèmes dans lesquels vous vous cognez à droite et à gauche. Quand vous êtes à votre place, c'est pour ça que Pierre va dire aussi, chapitre 4, verset 10, « Puisque, écoutez, chacun a reçu un don, alléluia. Il y a de la place dans cette Église pour chacun, depuis ceux qui sont sur la galerie jusqu'au fin fond des écoles du dimanche. Chacun a une place, puisque chacun a reçu un don qui veut dire charisma, charisme, c'est un don spirituel, un don de Dieu, puisque Dieu a investi un don en toi, sers. L'esprit de service doit primer en toute chose. Alléluia, l'esprit de service. Alors, de bon cœur, non en tyrannisant, parce qu'on peut avoir la tendance également de tout à coup... de croire, waouh, il y a une autorité derrière ce que je fais. Il y a une autorité. Et cette autorité peut nous monter à la tête, à tous. Elle peut monter à la tête. Et je peux en abuser. Et je peux en abuser facilement. C'est bien connu. Ceux qui ont une place et des dons naturels peuvent manipuler des foules entières. Des foules entières. L'histoire le montre, l'Église le montre aussi. Facile. Et le piège, justement, dans lequel Satan veut nous pousser, afin que tu rates, comme dit le verset 4, la couronne incorruptible, mais que tu tombes dans le jugement qui commence par la maison de Dieu, le diable va justement tâcher de trouver les failles dans ta façon d'être, pour trouver les faiblesses, comme il a fait pour Pierre, pour te pousser là-dedans. Alors tout le monde n'a pas les mêmes failles, les mêmes faiblesses. Mais l'une ou l'autre, ou une troisième ou une quatrième, parce que ce n'est pas fini le texte. Le diable va chercher, lui, le lion rugissant, va chercher à trouver une porte ouverte. Si tu as un ministère, donc une influence, donc une onction, donc un impact sur les gens, il va chercher à trouver les failles pour que tu tombes là-dedans et que tout ton témoignage soit ruiné. Lorsque le souverain pasteur... le souverain berger paraîtra, si tu sers dans les simples versets 1, 2, 3, de bon cœur, volontairement, en étant les modèles, dans un esprit de service et d'humilité, puisqu'il est dit aussi après, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, eh bien, viendra le jour où tu auras souffert. Tu auras travaillé, tu auras pleuré, tu auras transpiré, tu auras donné ta vie. Tu auras fait des choix difficiles, mais qui plaisent à Dieu. Tu auras passé par le chemin étroit et solitaire dans les vallées sombres parfois, où tu auras été un exemple, tu auras été un témoin, tu as laissé des traces. Viendra le jour, mon frère, ma sœur, où la couronne de gloire incorruptible te sera posée sur ta tête et tu vas l'enlever, tu vas la déposer aux pieds du Seigneur. Écoutez encore le verset 1 de chapitre 5. Pierre va dire, je suis ancien comme eux. Quelle est sa caractéristique? Lisez avec moi. Témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Pierre avait vécu quelque chose de spécial avec Jacques et Jean, le trio, autour de Jésus. Ils avaient été les seuls à être dans le jardin de Gethsémané. Et Jésus voulait qu'ils soient avec lui. Il avait besoin d'eux. Et là, ils ont vu, pour un moment, parce qu'ils se sont endormis par après, ils ont vu le concentré de souffrance et de ténèbres qui est tombé sur Jésus. Et Pierre a été aussi celui qui a aussi vu, même de loin, la crucifixion. Il va parler à plusieurs reprises des souffrances du Christ. Et si nous voulons un quelconque ministère, nous devons être témoins des souffrances du Christ et de la gloire du Christ. La souffrance du Christ doit être quelque chose, ce n'est pas une théorie. C'est quelque chose, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et Pierre, Jacques et Jean avaient été témoins donc des souffrances dans le jardin de Gethsémané et ils avaient été aussi amenés sur la hauteur, sur la montagne de la transfiguration pour voir quoi? La gloire de Jésus. Il faut que tu sois marqué par les souffrances du Christ. Il faut que tu comprennes ce que signifie la table de la Sainte Cène où on parle, où on rappelle d'une manière ou d'une autre les souffrances pour notre salut. Et qu'en même temps, tu sois connecté en permanence à la gloire à venir. La gloire qui n'est pas pour maintenant, mais qui est à venir. Et que la gloire de Dieu soit vraiment une priorité dans ta vie. Il faut comprendre et être saisi par les deux éléments pour exercer un bon ministère, quel que soit son nom. Est-ce que je peux entendre un amen? Les souffrances du Christ et la gloire. Et pour exercer ce ministère précieux, encore une fois, quel que soit ancien en devenir ou quel que soit le ministère, moniteur, responsable de cellule, conseiller, etc., etc., je ne vais pas énumérer tout ce qui est possible, il y a une liste non terminée, non exhaustive qui est là. Il nous faut pour cela l'onction du Saint-Esprit. Même le moniteur qui garde les enfants a besoin de l'onction du Saint-Esprit, pas seulement le pasteur qui prêche. Besoin de l'onction du Saint-Esprit. Cette onction, Pierre l'avait reçue le jour de Pentecôte et il lui fallait garder précieusement l'onction du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu gardes l'onction qui est sur ta vie? Ce n'est pas seulement un jour quand tu as reçu l'imposition des mains, que tu as parlé en langue, que tu as reçu l'onction. Il faut encore la garder, il faut encore la cultiver, la maintenir. Il faut encore y rentrer et la faire grandir. Lorsqu'Élisée reçoit le manteau d'Élie, son père spirituel et son prophète, il va dire, Élie, je veux la double onction. Est-ce qu'il était prétentieux? Non, parce qu'il savait qu'il aurait à faire face au double de problèmes dans la population d'Israël. Les problèmes étaient tels qu'il lui fallait plus d'onction. Et lorsque vous lisez les textes, vous verrez qu'il a effectivement eu beaucoup plus de miracles encore qu'Élie. Mes amis, si tu veux l'onction, tu peux demander une double, une triple, une quadruple onction. Mais il faut aussi que tu répondes aux besoins qui sont là. Frères et sœurs, nous sommes envahis par nos emails et par nos demandes téléphoniques ou autres, par des gens qui veulent la prière. Il nous faut l'onction. S'il n'y a jamais personne qui te demande rien, tu te dis, mais pourquoi j'ai l'onction? Ça sert à quoi? Si tu témoignes jamais, tu n'as pas besoin d'onction. Il faut que tu témoignes, il faut que tu te confrontes aux ténèbres, au monde et aux gens pour avoir besoin de l'onction. Est-ce que tu sens le besoin de l'onction sur ta vie? Est-ce que tu sens ce besoin ce matin? Passons plus loin. Il est dit aux jeunes, verset 5, que simplement ils doivent être soumis aux anciens. Si un ancien a une grande responsabilité, le jeune doit apprendre de lui. Et comme on a entendu par le témoignage tout à l'heure de Sarah, qu'est-ce qui est caractéristique à la jeunesse? Mais on a été jeunes comme les autres, bien sûr. C'est l'impatience en général. On croit savoir, on croit qu'on est bon, on croit qu'on est... C'est tout bon, il faut y aller. On est impatient et les aînés sont là pour nous dire « On t'accompagne, on croit en toi, on t'encourage. » Mais il y a une école à passer. Hein? On n'a pas son diplôme, on n'a pas son bachelor ou son master comme ça dans votre boîte aux lettres, comme une pochette surprise, n'est-ce pas? Il faut travailler pour ça. Il y a une première année, une deuxième année, une troisième année, puis une quatrième, une cinquième année à faire pour avoir, finalement, pour accéder à une fonction où on est formé. Donc, les jeunes ont besoin d'entendre cette parole. Soyez soumis aux anciens. Simplement. Ah, je sais que ça se discute beaucoup. Ça discute beaucoup. Pourquoi faut-il toujours être soumis? Mes amis, j'ai déjà dit à plusieurs de jeunes, je serais étonné et je serais surpris de voir si encore aujourd'hui, certains stagiaires seraient d'accord de passer ce qu'ont vécu nos pères dans leur stage. Et certaines choses que je ne vais pas vous dire, mais que j'ai vécues aussi dans mon stage. Des soumissions de type militaire. Vous devez faire des choses sans comprendre et sans vraiment comprendre le bien fondé de ces choses. Mais ce sont des choses qui sont à l'école de Dieu. Dieu est au-dessus du maître de stage que vous pensez qui n'est pas raisonnable du tout. Dieu est au-dessus et il veille. C'est lui qui contrôle. C'est lui qui sait jusqu'où ça peut aller, jusqu'où il va dire stop. Certaines choses, Dieu les permet. La patience de Job, la patience de Joseph, la patience de Daniel, la patience de tant de prophètes qui n'ont rien vu dans leur vie, la patience d'Abraham qui a dû attendre 25 ans pour avoir son fils. Et on pourrait prendre tellement d'exemples. Soumis. Certains disent, mais je suis soumis à Dieu. Ça ne veut rien dire, ça. Si vous n'êtes pas soumis, si vous n'êtes pas capable de vous soumettre, on a fait des messages sur la soumission il n'y a pas longtemps, si vous n'êtes pas capable de vous soumettre à quelqu'un, vous n'êtes pas capable de simplement dire « je suis soumis à Dieu ». C'est un mensonge, ce n'est pas biblique. Je vous reprends là-dessus. La soumission est indispensable. Non pas pour briser quelqu'un, mais pour nous apprendre quelque chose. Pour grandir dans la maturité. Grandir dans la maturité. Il n'y a pas de raccourci pour la maturité. Amen. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. On a tous nos chemins pour grandir dans la maturité. Il faut passer par les étapes prévues par le Seigneur. Il nous faut aller de l'avant. Regardez, ce texte est tellement fort. Revêtez-vous d'humilité. 1 Pierre 3,8 nous dit « Soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. » Dieu nous dit « Si tu es humble, tu seras gagnant. Si tu es orgueilleux, tu seras perdant. » Le seul vêtement qui nous convient en tant que serviteur et servante, c'est le revêtement d'humilité, c'est le seul qui te va bien. C'est le seul qui est ajusté à ta taille. Tous les autres qui brillent, etc., ce n'est pas des vêtements pour toi. Le mot « humilité » ne se trouvait dans aucun texte ancien de la littérature grecque et de la littérature de l'époque de Pierre. Ce mot ne se trouvait pas parce qu'il était synonyme de faiblesse et de bêtise. L'humilité est arrivée comme un mot avec la vie et l'enseignement de Jésus-Christ. Philippiens 2, l'apôtre Paul va dire qu'il était en forme de Dieu, il était Dieu, il s'est humilié lui-même, c'est ça. N'attends pas que quelqu'un t'humilie, humilie-toi toi-même. Humilie-toi toi-même. Jésus s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la croix. Ça, c'est Jésus. Nous avons rassemblé les pasteurs de Genève, toutes les pastorales, il y en a plusieurs ici dans notre ville. Avec le réseau évangélique, nous avons rassemblé au début d'année et nous voulions simplement prier ensemble, nous bénir ensemble et faire connaissance aussi. Et nous avons dit au départ de cette pastorale, nous voulons que personne ne distribue son flyer, n'invite pour un séminaire, ne donne son badge avec son titre, apôtre, pasteur, missionnaire, etc. Personne ne vient avec son titre, personne ne vient avec sa promotion, personne ne vient avec ses CD, personne ne vient avec ses livres, personne ne vient avec ses productions, avec ses cartes, etc. Personne. On est tous frères et on prie les uns avec les autres. Je peux vous dire, c'était une pastorale bénie, nous étions plus de 80 personnes à Genève et nous voulons recommencer et reproduire encore une fois, continuer dans cette ligne-là. Frères et sœurs, l'humilité, c'est le vêtement qui convient. Par nature, nous ne sommes pas humbles. Même le plus humble parmi nous peut lever la main. Par nature, je ne suis pas humble. J'ai une tendance à à ce que les choses tournent autour de moi. Tournent autour de moi et que, voilà. Et pourquoi est-ce que Dieu dit « je résiste aux orgueilleux » ? Le mot « résister », c'est un mot grec qui veut dire « se ranger en bataille contre quelque chose » ou contre une armée. Dieu résiste aux orgueilleux, ça veut dire « Dieu se range en bataille contre toi » si tu es orgueilleux. Si Dieu sent l'odeur de l'orgueil, il se rappelle que quelqu'un un jour, du nom de Lucifer dans le ciel, a eu cette même tendance et a eu une prétention d'être quelqu'un, de vouloir quelque chose qui n'était pas pour lui. Il voulait le trône, il voulait la gloire, il voulait être applaudi, il voulait être sous les rampes des projecteurs. Et Lucifer est devenu Satan, qui est tombé par terre. Et Dieu dit, lorsque je sens quelque chose qui ressemble à ce qui s'est passé dans le ciel un jour, eh bien, sache que je vais me ranger en bataille solide et avec un bastion, une armée contre toi, et tu vas voir ce qui va se passer. Et tu vas descendre. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est très fort ce terme. Mais ce matin, nous voulons la grâce de Dieu. Dieu fait grâce aux humbles. Je veux la grâce de Dieu. Nous l'avons chanté plusieurs fois. Dieu fait grâce aux humbles. Ça veut dire que quand la grâce de Dieu vient, le miracle vient, l'action du Seigneur vient. Le Seigneur travaille pour toi. Lorsque tu es humble, le Seigneur s'occupe de toi. Lorsque tu es orgueilleux, tu t'occupes de toi-même et tu auras à faire face à Dieu. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'avenir pour l'orgueilleux. Il n'y a pas d'avenir. Humiliez-vous. Et Dieu vous élèvera au temps convenable. Déchargez-vous sur lui, verset 7, car il prendra soin de vous ce matin. Est-ce qu'il y a encore des cœurs chargés? Est-ce qu'il y a encore des cœurs qui sont chargés de soucis, de craintes, d'angoisses et de mauvaises choses peut-être qui vous écrasent et qui tuent votre témoignage, qui éteignent votre joie, qui enlèvent votre enthousiasme, qui enlèvent la paix? Eh bien, ce matin, déchargez-vous sur lui. Il a les épaules pour. Alléluia! Il a les épaules, le Seigneur, pour porter ce que tu ne peux pas porter toi-même. Il a les épaules pour cela. Ne reste pas chargé. Soyez sobre, veillez. Résistez au diable, car il fuira loin de vous. Jésus avait dit à Pierre aussi, « Pierre, fais attention. Je te prophétise quelque chose. Satan t'a remarqué. Satan t'a repéré. Il sait que tu auras un grand ministère. Il connaît tes points faibles aussi. Satan t'a réclamé, il veut te secouer. » Et j'avais l'impression que ce matin, il y a des gens ici, quelques-uns, qui sont secoués. Vous êtes comme secoués. Vous perdez votre référence. Vous êtes secoués par les attaques du diable. Par les attaques du diable. Et Satan vous a réclamé pour vous passer au crible. Mais écoutez bien. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Jésus qui a prié pour Pierre, il prie pour nous. C'est son ministère dans la gloire. Alléluia. Mais parfois, les luttes contre le lion rugissant sont tellement fortes, tellement intenses. Jésus a transpiré le sang lorsqu'il luttait contre Satan à Gethsémané. Dans Hébreux, il est dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang en résistant contre le péché. Parfois, les luttes sont âpres, difficiles. Mais le Seigneur te donnera la force. N'importe qui d'entre nous peut résister au diable. N'importe qui. Je vais vous donner, pour finir, les conditions. Les conditions. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous n'êtes pas seul à vivre ça. Vous n'êtes pas seul. D'autres sont là aussi et vivent les mêmes choses. Parce que quand tu changes de royaume, le diable devient ton adversaire. Il ne te dira jamais rien de gentil. Il n'aura aucune bonne pensée pour toi, aucune bienveillance pour toi. Son calcul est toujours le même, voler, égorger, détruire. Et tout ce qu'il veut, c'est briser ta communion avec Dieu, c'est que tu te retournes contre Dieu et dis « Dieu me laisse tomber ». Ça ne marche pas pour moi, ça marche pour les autres. J'ai abandonné ceci pour Dieu et maintenant j'ai rien en retour. Ça, c'est les mensonges du diable dans lesquels il veut te pousser pour que tu craques et que tu abandonnes ta communion avec le Seigneur. Mon frère, ma sœur, tu peux résister ce matin contre le diable. Jacques va dire, soumettez-vous à Dieu, 1. Résistez au diable, 2. Et il fuira loin de vous, 3. Pierre va dire, soyez sobre, veillez. Votre adversaire rôde. Résistez-lui dans une foi ferme. en sachant que les mêmes choses sont imposées aux frères. Un pasteur que je connais s'est retrouvé suite à une crise cardiaque dans les soins intensifs. Il était entre la vie et la mort et sa femme priait pour lui. Sa femme priait pour lui, sa femme priait pour lui. Et là, dans la prière, elle a reçu une vision, elle a vu un lion rugissant, la gueule ouverte, sur son mari. Et quand elle a regardé, elle a vu que le lion n'avait pas de dents. C'est un lion rugissant qui a été désarmé à la croix du calvaire. Alléluia ! À la croix du calvaire. Résister au lion, comment ? Un, ne lui donner aucune place. J'aimerais souligner à la fin de ce message, zéro compromis, pas de porte ouverte, soyez radical face au péché. Il cherchera à mettre le pied dans la porte et c'est difficile de le faire sortir une fois que les pieds sont dedans. Pas de péché secret, de péché non confessé, car ce sont des choses qui vont témoigner contre toi. Satan les utilisera pour t'accuser et tu perds ton témoignage, tu perds l'onction, tu n'as plus d'impact, tu n'as plus rien à dire, tu ne rayonnes plus, tu n'as plus la gloire de Dieu. Soyons zéro compromis, soyons sans péché caché dans notre vie. Prie ensuite, prie. Sous la pression, l'attaque du diable, prie, tout de suite, prie. N'attends pas que dimanche arrive, qu'on prie pour toi. Prie là où tu es, prie le Seigneur. Il faut que l'église soit une église en prière du lundi matin jusqu'au lundi d'après, sans arrêt. Tu peux prier par le Saint-Esprit, ce n'est pas un devoir que je vous donne à faire. Vous devez laisser le Saint-Esprit prier au travers de vous. C'est lui qui prie, mais il faut lui laisser la place. Il ne faut pas l'étouffer, il ne faut pas l'éteindre, il faut lui laisser de la place, plus de place. Et vous prierez beaucoup plus, vous verrez, plus. Parce que le diable, je l'ai déjà dit, va chercher à briser la communion avec Dieu. Et lorsqu'il brise la communion avec Dieu, vous êtes faible. Et c'est ça qu'il veut. Ne lui laisse pas de place. Deux, prie. Trois, lis la parole, car la parole de Dieu te remplit de foi. Il nous est dit dans ce texte qu'il nous faut résister ferme dans la foi. Pour que tu aies la foi, il faut que tu sois... Tu n'as pas envie de lire ? Tu lis quand même. Tu ne t'y retrouves pas, tu lis systématiquement Matthieu, Marc, Luc. Tu avances, avance, lis, discipline-toi mon frère. Lis la parole pour que la foi, elle va rentrer. Tu te dis, mais il ne se passe rien, la foi rentre tranquillement, elle rentre. Lis la parole, proclame-la. Non seulement la lire, mais il faut qu'elle passe dans ta bouche. La parole de Dieu, dans la bouche de l'homme, devient puissance de Dieu contre l'adversaire, contre le lion rugissant. Et ensuite, termine par louer Dieu. Nous le faisons tellement bien ensemble, mais faisons-le seul aussi chez nous. Louons le Seigneur. Le diable déteste la louange. Le diable n'aime pas l'adoration. Adore le Seigneur et il fuira loin de vous. Alléluia. Écoutez la fin. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé, après avoir souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous perfectionnera, vous affermira, vous rendra inébranlable. Écoutez, j'ai fait une paraphrase et je vous dis la paraphrase. Mais le Dieu qui vous a fait toujours grâce et qui la renouvelle pour vous chaque matin, celui qui en Christ vous a appelé à sa gloire, ça revient 10 fois dans 1 Pierre, sa gloire 10 fois, celle qui vous attend encore, après que vous aurez souffert un peu de temps, puisqu'il le faut, en vue de votre maturité, vous réparera et vous redressera, c'est la signification du premier mot. Vous formera et vous perfectionnera lui-même. Deuxième mot, il vous affermira et vous donnera la stabilité, la constance et l'équilibre. Troisième mot, il vous fortifiera afin que vous teniez droit dans la vie. Et il vous rendra inébranlable, établi solidement sur un socle stable. À lui la puissance, au siècle des siècles. Amen, amen, amen.